Bonsoir, il est 18h, nous sommes le lundi 11 octobre, vous écoutez Radio Campus Paris en FM et sur le web, et c'est l'heure de la relève.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonsoir, on s'est raté la semaine dernière, mais on finit toujours par se retrouver. La relève, c'est toujours 30 minutes avec un jeune talent. Aujourd'hui, on va parler mariage et décoration, littérature et de la couleur des jours. Mon invité est autrice. Bonjour Maud Ventura.
Bonjour.
Vous publiez votre premier roman aux éditions de l'Iconoclaste. Comment va votre mari ?
Mon mari va très bien si on parle de ce premier roman, parce que sinon, je dois vous dire que j'ai pas de mari.
Donc oui, votre premier roman a pour titre « Mon mari ». Hein, c'est ça, mon mari, comme a beaucoup dit une femme d'un président de la République, elle parlait beaucoup de son mari, mais vous avez déjà dit que ça n'avait rien à voir.
Exactement, ça n'a rien à voir.
C'est un roman assez difficile à résumer. Il y a une révélation finale dont on ne dira rien. Franchement, ça serait vraiment pas sympa de dire ce qui se passe à la fin. C'est le récit de la vie parfaite, d'une femme parfaite qui vit avec un mari parfait, dans un monde parfait, enfin, peut-être pas.
C'est ça, c'est a priori tout va bien, et quand on creuse, on voit bien qu'il y a anguille sous roche.
Ça vous amusait de raconter ça, de raconter ce qui se passait sous l'aspect lisse du monde, d'aller chercher peut-être les failles ?
Exactement, moi je suis fascinée par ces univers où en apparence tout va bien. Quand un livre ou une quatrième de couverture ou une série commence par « Dans une banlieue tranquille », cette femme à l'apparence parfaite avec la vie parfaite... Et derrière les apparences, alors moi j'achète. Tout de suite, je fonce le côté Desperate Housewife, j'adore, parce que pour moi, il n'y a rien de plus romanesque et de plus retentissant que l'apparence banale d'une vie conjugale, d'un couple, d'une famille avec des enfants.
Ça veut dire que vous étiez cliente des Desperate Housewives ?
Très grande cliente.
Vous les avez tous vus, vous les connaissez, vous pouvez les raconter, les yeux fermés presque.
Je peux vous les raconter si vous voulez.
Il y a des gens comme ça. Hein. Moi, je connais quelqu'un comme ça avec les Simpsons qui vous racontent les saisons une par une.
Alors, je ne pourrais pas reproduire ce miracle avec les Simpsons. Avec Desperate Housewives, je pourrais quand même me prêter au jeu.
Vous l'avez vu plusieurs fois ? Non, parce que vous êtes assez jeune, donc vous deviez être très jeune quand c'est passé la première fois.
Non, je me souviens que ça passait sur M6 quand je devais être au lycée ou fin collège, quelque chose comme ça. Et donc, j'ai découvert la série qu'on regardait sur M6 avec mes parents, avec mon frère. Et puis, je me suis laissée... emporté par cette histoire, et je me souviens quand c'est sorti qu'il y avait quelque chose de quand même très très novateur dans cette série, avec ces quatre personnages féminins qui sortaient des clichés, qui sortaient des stéréotypes, et c'est vrai que je m'en souviens encore aujourd'hui de la première promo sur M6 qui disait « Ce soir, découvrez ces quatre femmes », et qu'on s'était tous un peu regardant en disant « Ah, mais qu'est-ce que c'est ?» Il y avait le côté ovni de cette série américaine qui débarquait en France.
L'héroïne de Mon mari, ça pourrait être la cinquième ?
Ça pourrait, ouais. Elle s'entendrait bien avec les autres.
Vous y avez pensé, ou... Parce que là, on est parti sur ça. C'était... J'avais pas prévu, mais c'est plutôt amusant, d'ailleurs, de partir ailleurs.
Non, j'y ai pas pensé, mais c'est sûr que mes références, elles sont là quand j'écris. C'est l'univers qui est le mien. Donc, il y a Desperate Housewives, mais il y a aussi des livres qui m'ont constitué. Voilà, c'est en fait un ensemble d'inspirations, de références culturelles qui inspirent et qui font la personne que je suis et qui donnent les livres qui m'intéressent et les sujets qui m'intéressent.
Donc là, il y a l'idée, mais il y a la forme. Là, ce sont 7 jours de la vie d'une femme. Vous avez choisi de raconter sur 7 jours. C'était nécessaire que ce soit sur un temps aussi court pour qu'on prenne un moment de vie et qu'on voit comment tout se dérègle peu à peu.
En tout cas, c'était efficace pour l'histoire que j'avais envie de raconter. Ça permettait de, contrairement à une histoire qui peut se dérouler sur plusieurs années parfois, où donc le personnage évolue, moi je voulais faire une photo de la vie de cette femme à un instant T. Et donc on voit cette semaine-là, ça se découpe donc 7 chapitres comme vous le disiez, lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche. Et donc ça permettait de faire un instantané, de rentrer dans une semaine type de la vie de cette femme et donc de deviner par cette semaine-là, en fait, tout le reste de sa vie. Et puis, en termes d'écriture, c'était intéressant pour la montée de la tension, parce que c'est aussi un thriller psychologique. Et donc, quand ça se passe sur une semaine, ça permet de faire monter la tension progressivement, en mettant des indices au fur et à mesure, en faisant monter la tension, et que le lecteur se dise « Ouh là là, si se passe ça mercredi, on n'est que mercredi, qu'est-ce qui se passe jeudi ? Et qu'est-ce qui se passe mercredi ? Et jeudi ? Et vendredi ? » Et on sent bien qu'il y aura une chute, et on attend le dimanche.
Et du coup, oui, et comme vous disiez, ça a peut-être aussi un petit côté série. Les épisodes tous les jours, c'est l'équivalent d'une série qu'on regarderait toutes les semaines.
C'est ça, il y a des choses que j'ai empruntées à la série, notamment le principe du cliffhanger, c'est-à-dire qu'en fin de chapitre, créer du suspense, c'est-à-dire des questions irrésolues, des choses que j'ai laissées sans les clôturer. Et donc, on a envie de savoir Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Justement, dans votre livre, il y a comme un glissement progressif, comme aurait dit Rob Grier, mais là, chez vous, c'est vers une forme d'angoisse. Ça, c'est pareil, ça, c'est amusant à créer cette angoisse. Au début, on se dit, mais c'est quoi ce livre ? Tout va bien, qu'est-ce qu'ils nous font ? On se demande un peu même où il pourrait presque, si j'étais un peu vache, on se demande presque où est l'intérêt. Puis peu à peu, quoi, en même temps, on a envie de savoir. Il y a un livre, il y a eu bien une raison.
C'est vrai qu'en général, on dit les premières pages, les gens disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que le roman commence par « Je suis amoureuse de mon mari », mais je devrais plutôt dire « Je suis toujours amoureuse de mon mari, je l'aime d'un grand amour, je l'aime comme au premier jour ». Et donc des personnes qui n'en ont pas entendu parler ou qui parcourent le livre, mais qu'est-ce que c'est que cette niaiserie ? En 2021, on peut écrire des choses aussi niaises, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais en fait, rapidement, on comprend qu'il y a une bizarrerie là-dedans, qu'elle est amoureuse, mais qu'elle est follement amoureuse et qu'il faut entendre les deux mots, qu'il y a une folie. Et donc, l'angoisse monte. Et ces personnes, vous savez, un peu trop intenses ou qui sourient un peu trop, qui sont un peu trop contentes d'être là, il y a quelque chose d'un petit peu angoissant. Et donc, on voit bien que ça va mal se passer et on sait que ça va exploser, mais on ne sait pas d'où.
Vous parliez tout à l'heure des livres que vous avez constitués. Est-ce qu'à quel personnage vous avez pensé encore une fois, je crois qu'elle n'a pas de nom. J'ai peur de
dire une bêtise. Elle n'a pas de prénom.
Ouais. On dit que c'est une petite cousine de l'Ariane de Belle du Seigneur. Est-ce que vous l'aviez en tête ou pas du tout vous ?
Oui, c'est l'une de mes références. J'ai hésité à l'appeler Ariane, d'ailleurs, ce personnage.
Peut-être pour les auditeurs qui ne connaissent pas Belle du Seigneur, je vous laisse raconter.
Oui, c'est très grand roman d'Albert Cohen et qui raconte en fait la passion amoureuse de Ariane, le personnage principal, avec Solal. Et en fait, c'est l'amour cristallisation, amour passion. Et en fait, les deux personnages partent vivre dans une petite maison pour vivre leur bonheur. Donc à la base c'est un amour adultère, donc elle quitte son mari pour partir vivre avec lui.
Et en fait, est terrible, Marie, c'est un fonctionnaire, une caricature de personnage sans envergure, très très moyen.
Très médiocre même.
Ouais, médiocre. Ouais.
Médiocre et donc ils partent tous les deux. Et en fait, voilà, elle passe sa journée à choisir une nouvelle robe pour quand Solal va arriver. Dans cette maison, c'est une anecdote, mais assez représentative, elle fait construire des toilettes à l'autre bout de la maison pour être sûre que jamais, au grand jamais, Solal pourra l'entendre aller aux toilettes. Voilà, donc c'est la grande amoureuse.
Et donc, c'est une cousine ? C'est une petite cousine ?
Ouais, c'est une
de
cousine.
Votre héroïne ?
Ouais, elles sont sœurs, cousines.
Madame Bovary aussi ? Elle rêve moins, là. Elle rêve de son mari, elle rêve pas d'un amant, la vôtre.
C'est ça, elle est...
Elle est plus raisonnable, finalement.
Elle est plus raisonnable, Madame Bovary, et déjà un petit peu plus...
un peu perverse.
Hein. Un peu plus perverse, un petit peu moins dans la norme, elle rêve d'ailleurs. Là, elle rêve juste que son mari l'aime et qu'il rentre à la maison et qu'il lui dise qu'elle l'aime, quoi. Elle a envie d'amour, elle a envie d'amour.
Elle est traductrice aussi, alors elle est professeure, mais sur son temps libre, elle est traductrice. Et alors, elle passe sa vie à vouloir tout traduire.
Oui, c'est ça.
Elle traduit le moindre signe, plutôt. C'est ça que je voulais dire, pardon.
Oui, elle traduit tout. Elle l'interprète tout. C'est un peu l'état, je crois, de la passion amoureuse. Quand on est très amoureux, on va passer une heure à décortiquer un texto et d'être là, mais à la fin, il a mis à bientôt avec trois petits points. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il a mis un point ? Et en fait, on va tout analyser. Donc oui, elle est professeure d'anglais et traductrice. Et donc, elle est habituée à faire de l'analyse de texte, à de l'analyse de mots, où elle va comprendre la structure de la phrase, se poser la question quand on traduit. On se pose cette question, quelle était l'intention de l'auteur ? Quel est le ton ? Est-ce que c'est ironique ? Comment on traduit ? Et donc, on analyse tout. Et elle est dans cet état d'analyse permanente des moindres faits et gestes de son mari. Est-ce qu'il a commandé des lasagnes au restaurant ou plutôt un hachis parmentier ? Est-ce qu'il est rentré à 19h ou à 19h02 ? Et on interprète ces signes pour se poser la grande question, est-ce qu'il m'aime encore ?
Et pourquoi il l'a comparé à une clémentine ? C'est un de ses grands problèmes. Je vous propose de découvrir une autre de ses petites cousines que j'ai trouvée sur YouTube. Et elle est formidable, elle s'appelle Anna, elle donne des conseils aux femmes.
Faut-il changer de tenue si votre mari vous le demande ? Bonjour. Je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, petite vidéo avec la Saint-Valentin qui pointe le bout de son nez. Ok, une femme doit-elle se changer, doit-elle changer sa tenue vestimentaire si son mari le lui demande ? Donc, si la tenue ne plaît pas à son mari, doit-elle se changer ? Alors, plusieurs femmes m'ont écrit cela. Elles m'ont écrit cela presque avec un petit mot d'excuse, de Anna, j'ai essayé, j'ai mis cette robe, mais ça plaisait pas à mon mari, alors je me suis changée. Ma réponse, félicitations, super, très bien, parfait, 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 parfait. Maintenant, quelle est la réflexion derrière tout ça ? Je vous avoue d'abord, il y a quelques années, j'ai chroniqué le livre, enfin j'ai fait plusieurs chroniques sur le livre de Nadine de Rothschild, et par rapport à ses conseils vestimentaires, elle dit, lorsque vous allez faire du shopping, Vous y allez uniquement avec votre mari, pas avec vos copines. Pourquoi ? Parce que c'est à votre mari que vous devez plaire. Bon. J'avoue, il y a quelques années, oui, c'est assez ringard ce qu'elle dit. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que moi-même étant vieux jeu, bon, je dis qu'elle est ringarde, donc... Enfin, bref, j'étais pas d'accord avec ça. Et les années ont passé, j'ai gagné en sagesse, en maturité, et je me dis, elle a totalement raison. Oui, c'est à notre mari que nous devons plaire. Oui, on s'habille, certes, pour nous, mais on ne doit surtout pas sous-estimer l'impact de nos vêtements sur les autres. Et le but est de plaire à notre mari, pas à nos copines, pas aux voisins, pas aux profs, pas à la patronne, non. À notre mari. C'est extrêmement important. Alors, autre chose encore, si vous n'admettez pas la Nadine de Rothschild comme la gourou des bonnes manières, moi, je vous donnais une autre... La Bible. Si, par le plus grand des hasards, vous avez retenu la première lecture de la messe le dimanche 31 janvier dernier, 2021, ouais, c'était la lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Exactement... 7e chapitre, versets 32 à 35, où il est dit « Femme, plaisez à votre mari ». Je donne la citation exacte. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans la Bible, c'est important. C'est pas un vieux monsieur il y a 2000 ans a dit qu'il faut être séduisante pour son mari. Ah oui, mais le vieux monsieur, il a raison. Voilà, c'est important. Maintenant, posons encore les choses différemment, enfin, approfondissons cette réflexion. Votre mari a sûrement aussi une connaissance sur la mode féminine. Qu'on se le dise tout de suite, ce n'est pas que seuls les hommes gays peuvent donner des conseils vestimentaires aux femmes. Non.
La Relève, sur Radio Campus Paris.
Alors, est-ce qu'il faut s'habiller comme son mari ? Maud Ventura, je rappelle, vous êtes l'auteur de Mon mari. Et donc cet extrait, je pense pas que...
Cet extrait est lunaire, mais il date de... Il y a combien de siècles ?
Je crois qu'il est récent et je crois que c'était pas une parodie. Je pense qu'elle y croit vraiment.
C'est dingue. Cet extrait est dingue parce que parfois, j'avais l'impression d'en rajouter un peu en écrivant ce roman. Je cite notamment Nadine de Rothschild, dont il est question dans cet extrait, sur apprendre les bonnes manières, et cette femme qui veut absolument plaire à son mari, je me disais, bon, quand même. Et là, je me dis, mais...
C'est d'ailleurs un truc qu'il y a dans votre livre, là, vous rappelez que vous citez Nadine de Rothschild, mais là aussi, il y a un côté social chez elle. Elle veut appartenir à un certain milieu social, et on n'est pas que dans la comédie autour du mariage, il y a aussi cette angoisse du déclassement, enfin, il y a sûrement une forme d'angoisse du déclassement chez elle.
Oui, bien sûr, c'est ce personnage principal, c'est une transfuge de classe, elle se marie avec un homme qui vient d'un milieu extrêmement bourgeois, alors qu'elle, on le comprend vite, vient d'un milieu populaire, et elle comprend qu'elle n'a pas les codes. Elle voit qu'elle est invitée notamment...
Le couple d'amis, ouais, qui est en miroir. Hein,
c'est ça, le couple d'amis mondains qui savent bien, et elle arrive à ce dîner, elle se dit « je ne sais même pas quoi acheter comme cadeau, je ne sais pas quoi choisir comme vin, je n'ai pas les codes ». Et donc elle achète le livre de Nadine de Rothschild pour apprendre tous ces codes et faire partie de ce monde.
Mais donc, est-ce qu'on doit s'habiller pour son mari ou comme le dit son ami gay ou comme ses copines ? Parce que quand même, elle a des amis gays, Anna. Elle est un peu moderne.
Elle est super ouverte d'esprit, on la remercie, Anna. En tout cas, mon personnage principal est persuadé qu'il faut s'habiller pour plaire à son mari. Et elle ne vit que pour son mari. Mais évidemment, je mets des choses dans la bouche de ce personnage pour précisément les dénoncer, pour en montrer l'absurdité, pour en montrer la monstruosité. Donc, je ne pourrais pas plus soyer ce que dit Anna.
L'amour, est-ce que c'est la forme de folie qu'on accepte le plus souvent au quotidien pour vous ?
Oui, c'est vraiment quelque chose que je me répète souvent et je me dis il y a tellement de choses qu'on fait par amour et c'est socialement acceptable de passer une heure à décortiquer un texto, de passer 5 heures à choisir les tenues, à aller à se changer, à se dire comment il m'a trouvé, etc. Et puis même au-delà de ça, mais j'en parlais avec une amie ce midi encore, on accepte tellement de choses par amour qu'on n'accepterait jamais en amitié ou dans d'autres domaines de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait deux grilles de critères. C'est-à-dire qu'on peut rester avec quelqu'un qui nous rend malheureux, qui n'est pas très sympa avec nous, qui ne nous parle pas très gentiment. Mais si moi, une copine ne me parle pas très gentiment et pas sympa avec moi, ce n'est juste pas mon ami. Je dis non, je ne l'aime pas trop. Alors que quelqu'un dont je suis amoureuse peut être là, oui, mais... Et donc oui, on fait des choses qui me semblent totalement absurdes par amour.
Est-ce que vous avez aussi voulu tordre le cou à cette idée selon laquelle les gens heureux n'ont pas d'histoire ? Qui est quand même la grande phrase du roman de Tolstoï qu'on Bon, je ne vais pas la citer parce que je l'ai recopiée sur Internet, donc je ne vais pas faire croire que je suis cultivé. Mais est-ce que c'est, il y a un plaisir à montrer que finalement, même les gens heureux ont une histoire.
Mais...
ou que les gens heureux n'existent pas, peut-être.
C'est ça, parce qu'elle n'est pas très, très heureuse, ce personnage, on ne va pas se mentir. Elle vit quand même dans l'angoisse.
Elle veut l'être, elle veut tellement l'être qu'elle finit par plus l'être.
C'est ça, et elle vit dans l'angoisse permanente de le perdre. Elle est profondément intranquille, comme tous les gens très amoureux. Et elle a toujours peur qu'il s'en aille, qu'il ne l'aime pas assis, etc. Donc elle n'est pas très heureuse, mais ce qui est vrai dans cette phrase, c'est ma fascination pour ce qui n'est pas romanesque. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de 12 000 rebondissements, j'ai pas besoin d'être dans un univers parallèle et d'avoir des voitures qui explosent pour avoir de l'aventure dans ma vie. C'est-à-dire que moi, si j'ai une histoire à écrire, on me donne une maison, on me donne une famille avec deux enfants, une cuisine, un salon, un canapé, et j'ai tout ce qu'il me faut pour écrire tous les romans du monde. Donc pour moi, oui, il n'y a rien de plus romanesque que la vie quotidienne, que le couple, que la famille.
Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans l'Obs la grande conversation, je sais pas si c'est, on ne va pas dire que c'est un dialogue, on va dire une conversation, entre Alice Coffin et Finkielkraut. Et il y a un moment, Finkielkraut dit « L'amour est une emprise, une aliénation positive qui nous révèle à notre corps et à notre cœur défendant que la liberté n'est pas la valeur ultime. J'ai l'impression qu'on veut nous priver de cela. » Ça vous fait réagir, cette idée que l'amour nous rappelle finalement qu'on n'a pas tant que ça envie d'être libre, mais qu'il y a une part de nous qui rêve d'emprise?
Oui, cette phrase, elle montre aussi les contradictions dans lesquelles on est empêtré parfois quand on est amoureux, l'amour parfois nous fait renoncer à des convictions. On rêve d'indépendance, on rêve de liberté, on a tout un tas d'idées sur ce qu'on veut faire de sa vie et comment on veut mener les choses, et puis on tombe amoureux. Et parfois, ça nous fait faire des choses qui sont totalement contraires à cet idéal d'indépendance. Et donc oui, il y a une grande contradiction. Je crois qu'on est amoureux, et notamment quand on est féministe, comme c'est mon cas.
Justement, c'est ce que j'allais vous demander.
On y vient.
Mais non, parce qu'on parle d'Alice Coffin. Est-ce que c'est un livre féministe? Est-ce que vous estimez que vous avez écrit un livre féministe? Au sens où finalement, vous montrez que dans un couple, il y a souvent un sacrifié et que c'est la femme.
Alors j'espère que c'est un livre féministe. En tout cas, je suis féministe. Et mon propos, en l'écrivant, l'était. C'était de montrer... oui, que cet idéal d'une femme qui attend son mari et qui fait tourner sa vie autour de lui, ça crée des monstres. Et c'est encore ce qu'on nous vend. Et je voulais montrer la persistance de certains modèles. Et je suis bien consciente, en plus, de vivre dans un microcosme avec des amis féministes où j'ai lu des textes féministes, où je suis hyper sensibilisée à ces sujets. Et pourtant, j'ai 28 ans, voilà, j'ai bientôt la trentaine, mes amis c'est pareil, et la question qu'on se pose tout le temps c'est est-ce qu'il va te rappeler, est-ce que t'as un mec, et les mecs, et les mecs, et les mecs, et les mecs, et je me dis, ouais, il y a quand même une contradiction, et ouais, quelque chose à interroger, et une persistance de certaines idées, à savoir notamment, la vraie vie ne commence pas tant que t'as pas rencontré l'homme de ta vie.
On écoute un peu de musique.
Sur la lune, mon amour, on emménagera sur les dunes. Pour toujours, je t'emmènerai sur la lune. Mon amour, on emménagera sur les dunes. Pour toujours, y'a comme une histoire dans le ciel blanc. Quand elle enlève ses vêtements, je t'ai fait du mal bêtement. La prochaine fois, ouais, j'irai doucement. Y'a comme histoire dans le ciel blanc. Quand elle enlève ses vêtements, la prochaine fois, ouais, j'irai doucement. Je t'ai fait du mal,
serré son bassin, j'ai palpé son cœur. J'ai ouvert les portes du paradis. Elle m'a dit faisons comme si nous étions deux âmes sœurs. Et j'ai volé sans débris, ça ne m'a pas fait peur. Chérie, écrivons l'histoire sans faire de métaphores. J'ai donné sans compter pour ouvrir ton cœur. Couronne de fleurs, caresse cet empêcheur. Moins fort avant que je ne me sente écarté de nous deux à force. De combler le vide avec d'autres. De sourire aux blagues des potos. Celles qui parlaient de toi à l'époque.
Je t'emmènerai sur la lune. Mon amour, on emménagera sur les dunes. Pour toujours, je t'emmènerai sur la lune. Mon amour, on emménagera sur les dunes. Pour toujours,
y'a comme une histoire dans le ciel blanc. Quand elle enlève ses vêtements, je t'ai fait du mal bêtement. La prochaine fois, ouais, j'irai doucement. Y'a comme une histoire dans le ciel blanc. Quand elle enlève ses vêtements, la prochaine fois, ouais, j'irai doucement.
fait trop de ce fort. Je la reconnais derrière toutes ses formes. On n'est pas de ces couples qui s'efforcent à s'aimer. Pour elle, je reconnaîtrais tous mes torts. Je vis la nuit, je veille quand elle s'endort. J'ai pris sur moi, j'ai fait tant d'efforts. Elle est mienne désormais. Désormais, elle se balade dans mon cœur en bazar. Je l'emmène sur mon nuage sans la faire patienter. Désormais, elle se balade dans mon cœur en bazar. Je l'emmène sur mon nuage sans la faire patienter. Y'a comme une histoire dans le ciel blanc. La prochaine fois, ouais, j'irai doucement. Je te fais du mal,
je t'emmènerai sur la lune. Mon amour, mon emménagera sur les dunes. Pour toujours, je t'emmènerai sur la lune.
Ah ben voilà, par amour, il en fait beaucoup ce monsieur. C'était Princesse et ça s'appelle La Lune.
La Relève sur Radio Campus Paris.
Alors on en parlait juste avant, on parlait de tout ce qu'on... Alors je sais pas, étant un homme, j'ai peur de ce que je vais dire, je me fais peur moi-même, mais de tout ce qu'on met finalement dans la tête des femmes, en tout cas de la société, mais dans la tête des femmes. Et alors pour le coup, la chanson, c'est terrible, pour tout vous dire, de nos petits secrets, c'était pas celle-là qui était prévue, c'était une chanson de Hoshi qui disait « Même après, je t'aimerai », alors elle est prête à vendre ses reins, elle est prête à tout faire. Et il y a toute cette idée toujours de... Un autre cas, c'est Céline Dion, pour que tu m'aimes encore. Ça, c'est une chanson qui est terrible, je trouve.
Elle est terrible, cette chanson.
J'avais toujours une copine qui disait, c'est la fille, elle vous met la guerre dans le monde entier alors qu'on n'a rien demandé. Mais il y a de ça, quand même.
Mais c'est ça, Céline Dion, elle dit quand même, en fait, je serai prête à tout pour que tu sois encore amoureux de moi. Et j'écoute beaucoup Céline Dion, c'est une grande, grande référence dans ma vie. Ça et Véronique
Sanson.
Dans toutes nos vies, mais Céline est toujours là. Et cette chanson, effectivement, je l'écoutais en écrivant ce roman, je me dis, mais c'est ça. C'est pour que tu m'aimes encore, mais je me suis dit que je pouvais même appeler son nom pour que tu m'aimes encore. En fait, elle est prête à tout, à se mettre par terre, à se rendre vulnérable, surtout, c'est l'amour sacrificiel. C'est ça. Mmh.
Et ça, c'est ce que vous voulez plus voir. Est-ce que vous pensez qu'avec cette forme un peu humoristique, parce qu'on rit beaucoup aussi en lisant votre livre, vous pensez que le message va passer mieux qu'en faisant un pamphlet violent qui serait plus accusateur ?
En tout cas, ça ne me ressemblerait pas de faire un pamphlet. Ce n'est pas non plus un essai, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le roman, c'est d'inventer une histoire. Et donc, cette forme humoristique permet aussi pour moi de dédramatiser certains sujets. Et notamment, la question de la passion amoureuse, où on fait des choses un petit peu risibles. Notamment, mon personnage principal se compare souvent à Phèdre, l'héroïne de Racine. Alors, elle marche dans la rue, elle pleure, elle dit « Non, mais Phèdre ne connaît pas le vrai malheur à côté de moi, etc. » Évidemment, c'est pour rire et c'est une manière pour moi, en fait, de me dire à moi-même en écrivant, Maud, ça va aller. On sourit un peu. Oui, là, t'es mélodramatique, ton mec n'a pas envoyé un message pendant une heure, il a enlevé sa main, t'as l'impression que le monde s'écroule. Bon, on souffle par la bouche, ça va aller.
Oui, mais en même temps, une fois qu'on a ri comme ça, peut-être que ça infuse plus dans les esprits que par quelque chose qui est très frontal, où on va être tout de suite... Je donnais l'exemple de Finkielkraut et d'Alice Coffin dans L'Obs, là, il n'y a pas longtemps. C'est très clivé, donc on choisit un camp et puis on a tendance à discréditer les arguments de l'autre. L'avantage de la forme romanesque est là, qui est un peu humoristique, c'est qu'on est peut-être moins en opposition directement dans ce qu'on lit.
Et puis c'est montrer aussi que c'est risible. C'est qu'on parlait de folie quand on est amoureux et on fait aussi des choses qui sont risibles et accepter d'en rire parfois, je pense que ça permet, c'est d'un grand secours et d'un grand réconfort.
Mmh. L'amour et l'angoisse sont-elles plus inséparables que bien des amants, d'après vous? Ah, c'est la question psy à deux balles.
Eh ben,
de 18h24.
Ouais, on en est là. Et je suis ravie d'aller dedans parce que je vais te dire un grand oui. En tout cas, dans cet amour-là qui est l'amour-passion, pour moi, je ne sais même pas si c'est de l'amour. En fait, cet amour, on pense à l'autre tout le temps, on est dans cette obsession. Et elle dit ça à un moment, mon personnage, elle dit j'ai l'amour triste. En fait, elle dit depuis que je suis avec lui, je suis triste tout le temps, je suis angoissée, j'ai toujours peur qu'il me quitte. C'est l'intranquillité totale. Donc en tout cas, une certaine forme d'amour ressemble bien à une grosse crise d'angoisse.
Même quand elle achète une lampe pour son salon, ça devient très compliqué parce qu'il faut le placer au bon endroit pour qu'il la repère, pour qu'il puisse l'allumer tout en lui caressant la main. C'est une contrôle freak, on peut dire. Elle est obsédée du contrôle. Vous n'avez pas 30 ans, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est votre premier roman. Alors est-ce que vous êtes avant tout amoureuse des livres?
Ouais, 100%. J'adore la littérature, j'adore lire, j'adore écrire.
C'est un rêve d'enfant que vous accomplissez là? Enfin, peut-être d'adolescent.
Ouais, d'enfant. Un rêve d'enfant.
C'était qui les auteurs qui vous ont donné envie d'écrire ?
Moi, c'est Annie Ernaux. C'est quand j'ai découvert Passion simple, qui est un livre dans lequel elle raconte une passion amoureuse pour un homme marié. Je me suis dit,
Il y a des gens qui sont d'accord en régie. Ah, vous êtes au moins deux.
On est au moins
deux. Voire trois même.
Voire 10 millions. Mais ce livre, il a changé ma vie. Et en fait, je me suis dit en le lisant, j'ai envie d'écrire. Parce qu'en fait, pour la première fois, je lisais un livre qui parlait exactement de ce qui m'intéressait. C'est-à-dire une femme qui, pendant 100 pages, ne raconte que le fait qu'elle a envie de voir un mec et de coucher avec lui et qu'il lui envoie un message. Bon, à cette époque, il date de 92, le livre. Donc pas de message, mais plutôt qu'il l'appelle sur son fixe, comme c'était le cas à l'époque. Et en fait, en lisant ce livre, je me suis dit, mais en fait, tous les livres que je lis, en fait, si moi un jour j'écris, je peux faire quelque chose comme ça. J'ai pas besoin de faire des trucs avec des rebondissements et des personnages secondaires et d'écrire pendant les 5 premières pages l'église avec le temps qui fait, la météo, les nuages et les petits oiseaux. En fait, si je veux juste raconter pourquoi je suis obsédée par un mec pendant 200 pages, je vais raconter pourquoi un mec m'obsède pendant 200 pages. Et je me suis dit, mais quelle liberté incroyable de pouvoir juste raconter une obsession, de pouvoir juste en fait parler du sujet qui nous intéresse et qu'on s'en fiche de la forme, on s'en fiche d'enjoliver. On va parler du sujet qui nous intéresse. Et donc, en écrivant ce premier roman, je me suis dit, je vais raconter que ce qui m'intéresse, c'est-à-dire un couple marié et une femme qui est trop amoureuse de son mari, parce que c'est exactement ce que j'ai envie de raconter.
Patient simple, qui a été adapté récemment au cinéma, on ne se prononcera pas. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux rien en dire. Si vous voulez en dire un mot, allez-y.
Oui, j'ai beaucoup aimé l'adaptation, sachant que c'est mon livre préféré. J'avais des grandes attentes. Et en plus, c'est un livre où il ne se passe quand même pas grand-chose comme événement. Donc, je me disais, tiens, comment vont-ils faire pour l'adapter? Et ils ont un peu triché en mettant beaucoup de musique et en donnant l'émotion via des grandes scènes avec de la musique. Donc, j'ai beaucoup pleuré en le regardant. Et j'ai aussi beaucoup pleuré à la fin en me disant, je me répétais cette phrase en boucle, assise là sur le siège dans le cinéma et en me disant mais plus jamais, je me disais mais plus jamais ça, en fait cette passion là on fait que vivre pour l'autre, on est collé à son téléphone et on ne peut rien faire d'autre que d'y penser, on vit dans cet état là de fébrilité, je me suis dit oh putain, plus jamais ça.
La quatrième de couverture de votre livre parle d'études de philosophie, vous aviez travaillé sur l'amour, c'est un sujet que vous avez étudié, les grands auteurs?
Pas particulièrement, enfin plus ou moins, mais c'est vrai que j'ai pas énormément lu de philosophes qui parlaient du couple et de l'amour, parce que je crois que c'est un sujet pas très à la mode, quoi, au XVIIe siècle. Moi, j'étais surtout philosophie du XVIIe siècle. On parlait de la passion. Donc moi, j'ai travaillé sur Pascal. Ah oui. J'aimais aussi beaucoup Descartes et Leibniz. Donc si on parlait de passion et d'amour, c'était pour Dieu, hein, spoiler. c'était quand même la passion, les passions tristes, les passions heureuses chez Spinoza. C'est quand même beaucoup un petit clin d'œil à Dieu et à ces questions-là. Et donc, c'est vrai que la philosophie a structuré ma manière de penser, d'analyser, et ça a été très, très formateur. Mais parfois, j'avais ce manque de répondre aux questions que je me posais vraiment, c'est-à-dire pourquoi je suis si obsédée par ce mec, donnez-moi la réponse. Et ça, je l'ai plus trouvé dans des livres, dans la littérature, que chez mes philosophes préférés.
Et donc les livres, 2-3 avant de nous quitter?
Eh ben, Passion simple de Annie Ernaux, un autre livre d'Annie Ernaux qui s'appelle L'Occupation, où elle parle juste d'une crise de jalousie, elle est très jalouse d'une autre femme, 50 pages où elle raconte juste pourquoi elle est jalouse de la nouvelle meuf de son ex. Et je dis, mais c'est ça qu'on veut faire, c'est le genre de livre qu'on veut écrire. Sinon, des livres de Kundera que je trouve merveilleux, ou de Catherine Cusset, que j'adore.
Ah, bah, parfait, bah, écoutez, là je crois qu'on a un très bon programme. Merci beaucoup Maud Ventura, je rappelle que vous êtes l'autrice de Mon mari aux éditions de l'Iconoclaste. Voilà, c'était La Relève, il est 18h29 et 18 secondes. C'était présenté par Christophe, c'était réalisé par Kathleen, une lectrice d'Annie Ernaux, elle aussi, je l'ai vue. T'es toute contente qu'on en parle, voilà. Vous pouvez retrouver l'émission et toutes les précédentes ou presque sur le web de Radio Campus Paris, rubrique La Relève. À 19h, vous retrouverez la matinale présentée ce soir par Adrien. En attendant, c'est le programme musical de Radio Campus Paris. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à 18h. Merci.